Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission sport. Temps additionnel pour m'accompagner dans cette revue de l'actualité sportive. Alex sera à nos côtés. Adichat à toi Alexandre.
Adichat Raphaël, comment ça va?
Ça va très bien et toi, comment ça va?
Franchement, la forme. Hein. Là d'ailleurs je suis content parce que là on va parler de pas mal de choses qui pour le coup, c'est tout simplement beau ce qui s'est passé avec le Stade Toulousain. Mais bon, je te laisse
exactement,
parler.
Au menu aujourd'hui, victoire du Stade Toulousain et on se projettera évidemment sur le prochain match de Champions Cup contre l'Union Bordeaux-Bègles ce samedi. On parlera ensuite du TFC évidemment, qui a fait match nul, qui n'a pas perdu, et ça c'est beau pour les hommes de Carles Martinez-Novel. On parlera évidemment de PSG-Arsenal et de Inter-Barcelone. Il y a eu des gros matchs, il y aura l'instant prono pour les matchs retour de la semaine prochaine. Les Six Nations féminines également, avec la défaite de la France 43 à 42 sur le fil. On reviendra sur ce match exceptionnel des Françaises. Et ensuite, on parlera enfin de MotoGP. On change un peu de la Formule 1. Il n'y avait pas Formule 1 ce week-end. On parle de MotoGP. Pour finir, comme d'habitude, on parlera du match du Phoenix. Pour démarrer cette émission, comme d'habitude, on va parler du carton du Stade Toulousain sur ses terres face au rival Castres, une victoire 52 à 6 où les rouges et noirs ont totalement écrasé la concurrence avec des essais de Dimitri Delib, la jeune pépite Simon Darroch qui a fait une très très grosse impression, Malachi Hawks, Alexandre Roumat, Julien Marchand, Pierre-Louis Barassi et Matisse Castro-Ferreira, et toujours Thomas Ramos qui revient en grande forme pour transformer enfin ses essais toulousains, donc un véritable festival offensif qui en a surpris plus d'un, hein, puisqu'on voyait un match plus serré et au final un match pas du tout serré, hein, vraiment. De 40 points d'écart, c'est énorme.
Et oui, de toute façon, là, t'as dit des beaux noms, là. J'ai entendu quand même Adelib, Marchand, ça, c'est quand même des beaux noms, en plus pour un derby. Mais honnêtement, tu sais, de mon côté, je voyais pas un match vraiment serré dans ce derby entre Toulouse et Castres. Alors, bien sûr, dès le début, les Castrés, ils ont tout simplement commencé à ouvrir le score, hein, dès la 9e minute sur pénalité, avec les 3 premiers points du match, bien évidemment. Hein, sinon, c'est pas drôle. Hein,
Ça, c'est fabrique toulousaine, ça.
C'est ça, on se prend déjà les points dès le début, mais bon. De toute façon, là, on peut se réjouir parce que dès la 17e minute, on a pu voir la prestation de Simon Darroch, comme tu as parlé au tout début. Il a 19 ans, tu te rends compte quand même, 19 ans. Et dans ce match, il a fait une magnifique passe pour Dimitri Delib qui a inscrit son premier essai, qui a inscrit le premier essai du match, pardon. Et à la 20e minute, là, tout ce qu'il a fait, le jeune Simon, c'est qu'il a inscrit son premier essai en professionnel. Et ça, je trouve ça beau de voir que Hugo Mola fait confiance aux jeunes du centre de formation. Là, ça, il a fait un très très beau match. Et à partir de là, Toulouse a lancé la machine, hein, et Alexandre Roumat a tout simplement fait taire les espoirs des Castrés à la 37e minute. Ça veut dire qu'il y avait 31-6 en première période, 31-6, et que dire, en deuxième période, les Castrés n'ont plus touché le ballon. Ça, je suis très étonné par rapport à ça, alors que pourtant ils sont plutôt bien classés, ils n'ont pas touché le ballon. Ça veut dire que ils n'avaient que 6 points, et les 40 minutes restantes, toujours rien. Donc écoute, c'est une humiliation, tout ce que je peux dire. Puisque ça s'est terminé à 52 à 6 pour Toulouse, donc très bon derby pour le Stade Toulousain. Alors Castres Olympique, pour le coup, doit oublier cette défaite et doit se focaliser sur sa qualification en Champions Cup pour la saison prochaine.
C'est ça, cette défaite les motive pas trop, les Castrés, pour aller chercher la Champions Cup. On le rappelle, ils sont combien tiers? Maintenant, ils restent 5e. Clairement, on n'a pas réussi encore à aller les titiller. Et t'as dit, Hugo Mola fait confiance aux jeunes et n'a pas trop le choix. Hein, parce qu'il y a une pluie de, blessés à Toulouse. Hein. Il y a Antoine Dupont, Peatomo Vaca, Blair Kinghorn, Capozzo, Romain Tamac. Ça commence à faire beaucoup. C'est des cadres qui sont blessés. En plus, c'est des gens qui étaient là dans l'équipe en finale l'année dernière contre La Rochelle. Donc ça fait peur, mais bon, on voit que les jeunes font très bonne impression à chaque fois. Ils ont réussi à faire un match de fou. L'entrée aussi de Matisse Castro-Ferreira qui va marquer un essai pour encore alourdir le score pour Castres, c'était pas mal. Donc franchement, prochain match, c'est à Chaban-Delmas contre l'UBB l'Union Bordeaux-Bègles dimanche à 16h pour les demi-finales de Champions Cup. Beaucoup voient l'UBB passer parce que l'UBB, ils ont battu 2 fois le Stade. Mais le Stade réussit à faire des cartons contre des tops équipes de top 14 avec une équipe 2, voire 3. Donc peut-être même avec la pluie de blessés, peut faire quelque chose face à un UBB qui a l'air un peu plus en difficulté Ouais, top 14 en ce moment.
De toute façon, ce qu'on a vu face à Castres, c'était pas non plus l'équipe titulaire, hein, tu l'as vu, mais quand même 52-6, c'est soit Castres n'avait vraiment pas confiance de jouer chez nous au stade, enfin au stadium quoi, ou tout simplement ils étaient tout simplement pas prêts, ou alors ils étaient focalisés, bah, comme je t'ai dit, pour se qualifier pour la Champions Cup. Mais c'est vrai que beaucoup voient l'UBB passer. Alors moi, en vrai, je vais te dire honnêtement, je vais pas non plus dire oui que le Stade Toulousain a forcément des chances. Enfin, ils ont des chances, mais c'est vrai qu'en ce moment, avec la pluie de blessés qu'il y a, et puis avec la motivation que l'UBB a en ce moment, parce qu'ils veulent tout casser, ça se voit, je vois que le match va être super serré, et j'espère en tout cas que le Stade Toulousain va pouvoir essayer de faire tomber l'ogre bordelais, parce que bon, on se rappelle les dernières en Champions Cup. Enfin, je crois que c'est en Champions Cup, il me semble, on les a bien terrassés. Je sais pas s'il y aura une revanche pour eux, ou si ça va être bis repetita cette année.
Mais en tout cas, la forme est clairement côté toulousaine, puisque l'Union Bordeaux-Bègles a perdu 10-21 face au Stade Rochelet, les 7e du championnat. La Rochelle, qui sont un peu moins bons que l'année dernière. Mais l'UBB qui perd à domicile juste avant le gros choc, leur plus gros choc de la saison face aux Nos Rouges et Noirs. Donc à voir, hein, dynamique vraiment du coup équilibrée, vu que l'UBB en ce moment est pas fou et que le Stade Toulousain n'a pas gagné contre eux et fait 2 défaites contre l'UBB cette saison. Donc très équilibré.
C'est vrai que là, bon, ils viennent de perdre leur match avant de jouer face à nous, mais c'est toujours comme ça. À chaque fois, ils perdent un match, et puis tu sais qu'en Coupe d'Europe, ils vont se donner à fond. C'est toujours ça.
C'est souvent ça, les équipes qui se donnent à fond en Coupe d'Europe. Mais encore, ça va, en top 14, ils sont seconds. Bon, nous, on est loin devant. Le Stade Toulousain est loin devant et est quasiment parti pour finir premier de cette phase de classement. Donc, à voir, rendez-vous dimanche à 16h pour les demi-finales de Champions Cup. Restons donc sur du rugby, mais cette fois-ci avec la clôture du tournoi de destination féminine qui a rendu son verdict ce week-end, avec une victoire juste, mais sur le fil des Anglaises face aux Françaises, défaite 43-42 des Françaises qui n'ont pas du tout démérité. Elles ont mis plus de points aux Anglaises sur un match que toutes les autres équipes sur tout le reste de la compétition. Les Anglaises ont pris 29 points sur 5 matchs et les Françaises en ont mis 42. Donc c'est franchement une bonne performance des Françaises, malgré une bonne partie de match qui a été subie hein, par nos Françaises. Elles ont réussi à remonter ces joueuses anglaises en toute fin de match, mais c'était pas suffisant. C'est tout de même un beau motif d'espoir pour les années à venir, pour donner du fil à retordre aux Anglaises qui remportent désormais leur 9e titre destination d'affilée. Donc c'est vraiment l'équipe qui domine en ce moment. Elles sont vraiment indétrônables.
Elles sont vraiment indétrônables, hein, mais après, comme on le voit, la France est malheureusement effectivement a perdu contre l'Angleterre, mais il faut voir quand même que côté français, on avait quand même Morgane Bourgeois qui a eu zéro faute, on va dire, pour transformer, enfin tout simplement, puisque là, au tout début du match, à la 7e minute, bon, il y a eu 5-7 pour la France. Morgane Bourgeois qui évidemment transforme les 2 points à 7e minute, sauf que malheureusement l'Angleterre a commencé à revenir au match, hein, puisque à 18e minute il y avait déjà 24-7 pour l'Angleterre. Et bon, on va dire que je suis quand même confiant pour la suite, parce que regarde, même si à la 70e minute il y avait 10 points d'écart entre l'Angleterre qui bien sûr dominait et la France, Morgane Bourgeois à la 80e minute a essayé, elle a réussi à, on va dire, pour l'honneur, on va dire, d'inscrire tout simplement la transformation à 2 points. C'est une petite défaite, mais pas tant amère que ça. Finalement, ça aurait pu être pire.
Ça aurait pu être pire, mais un petit peut-être regret, justement, l'essai de Morgane Bourgeois à la 70e qui n'a pas été transformé. Et si on fait le calcul, ça fait juste 2 points. C'est suffisant pour gagner. Donc c'est un peu dommage. Donc il y a des motifs d'espoir. Elles ont vraiment pas été ridicules face à ces Anglaises qui ont écrasé tout le monde. Elles ont pas pris plus de 12 points chaque match. Les Françaises en ont mis 42. Donc franchement, pour les années à venir, ça va être vraiment le vrai crunch, le vrai duel.
Surtout qu'en plus, quand on voit dans le classement, l'Angleterre 25 points, qui est bien sûr leur 5e victoire consécutive, alors que la France, c'est tout simplement sa première défaite. Donc ça promet, comparé à l'Irlande qui est derrière nous, qui justement est... On va dire qu'ils tendent aussi, puisque ils perdent, ils gagnent, ils perdent. Donc on va dire que les deux favoris, c'est surtout la France et l'Angleterre pour ces 6 nations. Et on verra bien, j'espère en tout cas au prochain match que l'équipe de France féminine va rebondir.
On change de sport, on va parler de foot. Évidemment, on peut pas passer à côté. Le TFC qui n'a pas perdu cette fois-ci la disette est fini pour les hommes de Carles Martinez Novel. J'ai dit qu'ils n'ont pas perdu, j'ai pas dit qu'ils ont gagné. Hein. Ils accrochent 1-0-0 à Nantes, à la Beaujoire, en jouant quasiment à 10 contre 11 tout le match. Hein. Avec la suspension donc d'Edjuma. Les Toulousains ont montré une belle combativité hein, face à des Nantais pas au top de leur forme certes, mais qui restent dangereux avec un joueur de plus tout le temps et ça a fait l'avantage. Toulouse a même failli marquer et mener le match, mais manque encore une fois de réalisme hein, devant le but. Un nom bien en tête, c'est Xavi Babica, j'en peux plus.
Ah ben ouais, c'est Babica, faut pas s'étonner non plus. Enfin, malheureusement, il est pas trop en forme en ce moment. Bon, Guillaume Rest a eu de la chance pour le coup dans ce match, il faut le dire, parce que bah, malheureusement, Edjuma s'est pris un carton rouge dès le début à la 38e minute. Bien sûr, c'est la VAR qui a changé le carton parce que de base c'était carton jaune. Finalement, c'est transformé en rouge. Dommage, Edjuma était à finir dehors. Donc, il y avait Magri, Babica et. Mais par rapport à Guillaume Rest, on a eu de la chance parce qu'il y a le poteau de Rest, figure-toi, parce qu'il me semble que c'était
Douglas. Le retour du poteau de Rest. Mais d'ailleurs, Alex, t'y étais pour nous.
Alors, oui,
raconte-nous un peu l'ambiance, c'était comment?
Alors j'y étais, oui, bah, j'y étais pour vous, la Beaujoire. Alors pour le coup, c'était pas le déplacement qui était long, mais c'était le match, hein, honnêtement. Parce que je veux dire, 0-0 en plein soleil, comme ça. Bon, il faisait super chaud à Nantes. J'ai cru qu'on était à Nice en Côte d'Azur, alors que pourtant on était à Nantes. Je vais pas non plus parler des conditions, comment ils nous ont accueillis en parcage, les autorités, parce que ça peut arriver des débordements, mais bon, on dira rien par rapport à ça, ça c'est dans un autre domaine. Je vais surtout parler sportif, point de vue sportif, que dire, hein, même en termes d'ambiance au niveau du stade, c'est Nantes quand même, grosse ambiance. On nous a pas entendu chanter, j'ai l'impression qu'il n'y avait aucune motivation quand on chantait, enfin, c'est pas tant ça, le problème c'est surtout aussi nos joueurs qui n'ont pas trop donné sur le terrain. Ce qui est bien, ce qui est plutôt prometteur, c'est que le TFC n'a pas pris de but alors que pourtant on était en infériorité numérique. Et on voyait que Nantes avait beaucoup plus d'occasions offensivement que nous, tout simplement. Nous, j'ai l'impression qu'on jouait le bus. Enfin, je sais pas pour toi.
Jouer la contre-attaque à la manière du Real Madrid, sauf qu'on n'a pas les attaquants du Real Madrid. On a Magri. Donc, très bien, hein, très bien Magri, mais un peu compliqué. Donc après, il y a des bases solides. Ce match, ça peut être un match référence pour les 3-4 dernières journées qui restent. Défensivement, ça a été très solide face à une équipe de Nantes qui était à 11 et qui avait plus faim que nous pour marquer. On a réussi à se procurer une ou deux occasions et malgré tout, toujours ce manque de finition. Donc là, projection fin de saison, on est maintenu normalement. Hein, j'ai le classement sous les yeux.
Oui, normalement, on est maintenu, oui.
On est maintenu.
Enfin, à mon avis, on n'est pas encore sûr.
Le Havre, 28 points, mais qui après va affronter. Ouais, non, c'est bon. On va être maintenant, normalement.
Ouais, oui, mais normalement, attention, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu quand même après les 0-0, alors c'est bien parce qu'on a quand même un point. Si on perdait, on aurait été encore plus en mauvaise posture. Mais sache que si jamais le Havre gagne les 3 prochains matchs, que nous, on perd les 3 prochains matchs, et ben on finit barragiste. C'est pas une blague.
Ce serait marrant quand même pour le divertissement.
Et pourquoi
deux
pas
matchs de plus. C'est deux matchs de plus, finalement. Ce serait deux matchs de plus à regarder jouer nos violets. Donc prochain match samedi, c'est à 19h contre le Stade Rennais, à 3 points juste devant nous. Donc si on gagne, on peut les raccrocher. Et là, c'est sûr, on pourra pas parler de relégation, de barrage, fini. Et Rennes qui a perdu donc sèchement contre l'Olympique Lyonnais 4-1 le week-end dernier au Groupama Stadium. Encore une fois, Alex, ce sera notre envoyé spécial directement au Stadium cette fois-ci, là-bas, pour aller encourager nos Toulousains.
C'est ça, puis en vrai, c'est pas tant la victoire que j'espère. Moi, je pense, à mon avis, mon pronostic pour la Ligue 1, là, on va dire pour les prochains matchs, je pense, à mon avis, on arrache le nul face au Stade Rennais. Je pense pas qu'on gagne. Après, on va dire, contre Lens, on perd, et contre Saint-Etienne, on gagne. Mais dans tous les cas, si on fait au moins match nul face à Rennes, on est sûr de se maintenir. La preuve, d'ailleurs, dans les journaux, ils disent qu'on est quasiment maintenu. Mais bon, on sait pas, imaginons qu'un jour, le Havre, ça devient le Real Madrid, et que d'un coup, on a une mauvaise posture. Mais j'y crois pas, je pense qu'on va rester en Ligue 1, c'est sûr.
N'oublie pas, Alexandre, qu'on est le FC Relance de la Ligue 1. On adore relancer des équipes. Donc à voir. Prochain rendez-vous, c'est samedi à 19h contre le Stade Rennais au Stadium. Alexandre, la Ligue des Champions a eu lieu mardi, a eu lieu mercredi et a donné un début de verdict. Le PSG a gagné 1-0 contre Arsenal là-bas, à Londres. Dans un match où les deux équipes jouaient à peu près le même football, mais où Dembélé a su trouver la solution, il y a 2-3 ans, cette frappe, il la mettait pas. Et là, il la met, c'est ça la puissance aussi de ce PSG et de Dembélé cette année. Donc 1-0 pour le PSG. Alexandre, quel est ton pronostic pour le match retour?
Arsenal-PSG, wow, c'est pas facile, hein, c'est pas évident. Alors ce qui est bien, c'est qu'évidemment, le PSG a su rebondir en Angleterre à l'extérieur, alors que pourtant, c'était pas facile. Là, au Parc des Princes, je pense, à mon avis, ils ont l'avantage de jouer chez eux. Mais tu connais le PSG, à l'aller, ils gagnent, au retour, ils se font peur. C'est ce qu'on avait vu avec Aston Villa, c'était pas passé loin. Donc je pense, à mon avis, si le PSG n'a plus ses vieux démons, comme ils nous l'ont montré face à Aston Villa, Je pense que le PSG va gagner, va s'imposer, peut-être 2-0, mais dans tous les cas, le PSG va s'imposer. Et bien sûr, ton prono, on attend.
Alors, mon pronostic, il est simple, c'est victoire du PSG et très grosse. Je vois un 3-0 du PSG qui va assurer son statut de favori. Maintenant, les nouvelles statistiques sont sorties et le PSG est favori pour gagner cette Ligue des Champions. Donc je les vois gagner avec un Arsenal qui s'effondre en fin de match et un PSG qui cartonne tout simplement avec la puissance de ses attaquants. Donc ouais, je vois le PSG passer, aller en finale et aller taper soit l'Inter, soit le Barça. Je vois le PSG aller au bout, ça c'est sûr. Donc victoire du PSG 3-4-0.
4-0 ?
4-0 à domicile pour faire plaisir à ses supporters.
Et confiant.
Enfin, moi je suis confiant, mais victoire du PSG, il se dirige tout droit vers Munich, vers la Lanz Arena pour aller taper soit l'Inter, soit le Barça.
Eh ben écoute, c'est notre réponse.
Je valide. Et le second match, qui n'a pas donné de favori pour l'instant, Barcelone face à l'Inter, 3 partout, Alexandre.
Oula, c'est alors très compliqué quand même Barça-Inter, parce qu'on a vu que dès le début, l'Inter a mené au score, et c'est le Barça qui a ensuite remonté. Il faut aussi parler du troisième but. Bon, malheureusement, c'est un contre-sans-camp, parce que c'est Yann Sommer finalement, mais la frappe de Rafinha. La frappe a été, je pense que c'est le but de la Ligue des Champions, mais malheureusement, c'est un contre son camp. Mais mis à part le plan sportif, je vais surtout parler en termes de pronostic déjà, ça c'est le plus important. Je vois le Barça gagner, mais au moins 1-0. Je vois pas à nouveau un scénario exceptionnel avec 6 buts. Je pense que ça va jouer 1-0 ou alors 1 partout et ça finit en prolongation ou tir au but. Mais je vois le Barça aller en finale. J'ai pas envie de voir l'Inter en finale. Et je pense que pour le bien du football, PSG-Barça en finale, ce serait la revanche ultime. Comme on avait vu avec la remontada en 2016-2017, cette saison-là. Là, c'est les finales, donc ça va se jouer. Bon, voilà. Donc, victoire du Barça pour moi. Et maintenant, j'attends ton pronostic, Raphaël.
Pronostic, donc, petit contexte. C'est l'Inter, cette fois-ci, qui reçoit. Le Barça n'a pas réussi à prendre l'avantage à domicile. Donc ça peut être un petit risque pour les joueurs catalans. Ils sont dans une grande forme, évidemment. Ils viennent de gagner la Coupe du Roi face au Real Madrid. Ça m'a pas fait très plaisir, évidemment. Mais ils l'ont gagné et ils sont dans une forme olympique. L'Inter, dont on entend beaucoup parler positivement dans le jeu, qui joue un jeu de... Un peu comme le Barça, c'est les deux demi-finales. C'est à peu près deux équipes qui se ressemblent dans le jeu. Et on l'a vu, ça se ressent sur le résultat. Donc moi, je vois le Barça passer, je pense, mais très très courte victoire, comme tu l'as dit, 1-0 ou 2-1, ou alors ça va aux prolongations et sur au but, mais je vois le Barça passer à l'expérience, hein, le Barça, l'âme du Barça est très forte, et ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas gagné, donc ils auront envie de la gagner avec une génération qui est magnifique. Yamal, qu'est-ce qui m'énerve ce joueur, mais qu'est-ce qu'il est bon. Je le vois pas faire la différence, peut-être un but sur corner ou un petit cafouillage, mais pas un match très décidé, donc victoire du Barça, mais sur le fil.
C'est votre ultime réponse ?
C'est mon ultime bafouille. Il n'y a pas eu de Formule 1 ce week-end. Pas d'inquiétude, elle revient le week-end prochain à Miami avec ce Grand Prix magnifique, avec une communication magnifique. Mais on reste sur du sport mécanique quand même et de la MotoGP, le Grand Prix d'Espagne qui s'est déroulé ce week-end et a vu couronner Alex Marquez sur ses terres, donc l'Espagnol qui gagne à domicile juste devant Fabio Quartararo. Fabio Quartararo qui a fait une très belle performance, qui a mené tout du long ce Grand Prix et qui s'est fait rattraper dans les derniers tours par l'Espagnol. Donc c'est un beau motif d'espoir. Le commentateur, il disait plus de 1000 jours après sa dernière victoire, Fabio Quartararo qui retrouve un peu un motif d'espoir pour peut-être les prochains Grands Prix, juste devant Francesco Bagnaia, l'Italien, qui vient compléter ce podium. Le deuxième français, Juan Zarco, est 11e. Il partait très très bien avec un très très bon départ, mais malheureusement, suite à un petit problème, il est en dessous du top 10. Un Grand Prix donc qui a vu 5 pilotes se faire sortir, dont Morbidelli, 4e du classement général, qui perd un peu de place. Ça peut jouer hein, pour la fin de la saison. On n'est encore qu'au 5e Grand Prix, donc ça va. Mais ça coûte déjà des points, sachant que Alex Marquez ou Francesco Bagnaia sont très très bien partis pour le titre. Alexandre, peut-être.
Alors là, franchement, bon, Alex Marquez qui gagne, je peux dire que c'est une petite surprise quand même. Mais pour moi, la plus grosse surprise, ça reste quand même Fabio Quartararo. Comme tu m'as dit, ça faisait 1000 jours qu'il n'avait pas fini sur le podium. 1000 jours, c'est énorme. Alors que c'est vrai qu'on s'en rappelle en plus la saison dernière, Quartararo, il était toujours dans le top 10 dans ces eaux-là. Je ne sais pas si c'était à cause de l'écurie ou à cause de la moto, tout simplement. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais là, je vois qu'il est en forme. D'ailleurs, il a eu 20 points d'ailleurs, là, dans ce Grand Prix. Bien sûr, Francesco Bagnaia qui finit troisième, très bonne performance. Et que dire après, effectivement, Morbidelli qui tout simplement n'a pas fini la course, ça peut lui coûter des points pour la saison, tout simplement. Mais je pense, à mon avis, même si j'ai quand même confiance en Quartararo, je pense pas que Quartararo va finir la saison sur le podium en général. Enfin, je pense que là, c'est son podium déjà en Espagne, c'est très bien. Mais maintenant, j'attends de savoir la suite. Que va-t-il se passer? Est-ce que Quartararo va-t-il conserver, enfin, veut-il jouer tout simplement même le podium, tout simplement, finir premier ou même être dans le top 3, c'est très bien. Enfin, moi, c'est ce que je l'espère.
On a l'impression d'un Fabio Quartararo qui a surperformé sur ce week-end espagnol parce que son coéquipier Alex Rins a fini seulement 13e. Donc, Quartararo qui prend de bons points au classement général, qui passe désormais 6e devant Joan Zarco. Il y a quand même les trois intouchables devant, hein, Alex Marquez, Marc Marquez et Francesco Bagnaia, qui vont se disputer, je pense, le titre jusqu'à la fin de la saison. Et on peut espérer peut-être une quatrième ou même une troisième place de notre Français qui peut revenir aux avant-postes s'il continue à surperformer tout du long de la saison. Pour finir cette émission, comme d'habitude, on va parler du Phoenix qui décroche encore une fois une victoire face à Ivry 28-29 dans un match dominé par les Toulousains en première période, qui s'est fait peur en seconde période aussi avec une belle remontée des Parisiens. Mais au final, la hiérarchie a donc été respectée du côté de la Star League française, la Ligue 1 de handball française. Donc prochain match pour le Phoenix, ce sera contre Montpellier qui est en très grande forme aussi en ce moment. Second de ce championnat qui vient de passer devant Nantes. Donc Toulouse qui a un programme assez chargé en ce moment. Ils ont affronté le PSG, ils ont affronté Nantes, ils affrontent Montpellier. Ils ont juste Nîmes et Ivry pour avoir une petite pause. Et là, ils réaffrontent un gros du championnat. Donc à eux de prouver qu'ils ont leur place en Coupe d'Europe.
C'est ça. Et puis là, je reviens sur le match contre Ivry. Toulouse qui joue à l'extérieur. C'était vraiment le match piège pour le coup parce que Ivry essaye de se sauver pour éviter justement d'être relégable. Il me semble qu'ils sont encore relégables actuellement. Mais ce que j'ai vu, c'est que Toulouse n'a pas faibli, même si c'était dominé, mais pas faibli, puisqu'on l'a vu justement à la mi-temps, en première période, ça s'était fini à 12-17 pour Toulouse. Et après, oui, Toulouse a su toujours s'imposer, mais rattraper à chaque fois, pardon. Et pour finir avec 28-29, c'était vraiment pas loin, mais heureusement, quand même, une minute avant, Toulouse avait quand même 2 points d'avance. Donc c'est une petite peur, enfin c'est plus de peur que de mal, tout simplement.
C'est ça, tu l'as dit, ça avait tout du match pièce, même la semaine dernière, tu l'avais dit. Donc Ivry, 9 points, qui va jouer en plus contre Nantes, le 3e. Donc la saison est quasiment finie pour eux. À Toulouse maintenant de garder sa place européenne, il y a Saint-Raphaël, il y a Nîmes et il y a même Limoges qui peuvent les menacer.
C'est ça.
Donc à eux de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire finalement la saison prochaine, s'ils veulent rester sur le canapé en semaine et jouer le week-end, ou alors s'ils veulent jouer toute la semaine. Donc prochain match contre Montpellier, va falloir montrer les crocs parce que c'était un peu compliqué contre Ivry, donc rendez-vous ce soir à 20h.
Eh oui, Toulouse-Montpellier, donc rendez-vous ce soir, mais il y a, pour clôturer évidemment cette saison, avec Saint-Raphaël-Toulouse, et Saint-Raphaël qui est juste derrière nous, ça va nous permettre, même si on va perdre contre Montpellier, je ne sais pas si on va gagner, mais je pense à mon avis ça va être très serré. Je mise tout sur la victoire de Toulouse à Saint-Raphaël pour on va dire maintenir la place européenne.
Oui, après il reste quand même 4 matchs pour nos Toulousains pour essayer de valider cette place européenne. Il y a Limoges et à Dunkerque et ils finissent la saison à Créteil. Donc à eux de faire le job finalement. Donc rendez-vous ce soir à 20h, Toulouse-Montpellier au Palais des Sports. L'émission touche désormais à sa fin, on a fini évidemment par le Phoenix, donc merci à tous d'avoir écouté l'émission Sport Quotidien, temps additionnel, merci à toi Alex.
Tout le plaisir est pour moi, écoute Raphaël, là j'ai hâte surtout pour le match là, UBB Stade Toulousain, Champions Cup, là j'attends que ça, même j'attends aussi le match de TFC Rennes, on verra comment ça se passe.
Effectivement, il faudra supporter nos équipes toulousaines ce week-end, Stade Toulousain qui joue gros, le TEF aussi qui joue un peu moins gros mais qui doit évidemment se maintenir. La semaine prochaine, on parlera donc du résultat du Stade Toulousain et de son match en top 14, du résultat du TEF et de son prochain match aussi en Ligue 1. La F1 reviendra à Miami, encore une fois, magnifique Grand Prix de Miami, où les Ferrari doivent encore prouver son retour dans l'élite avec le premier podium là, il y a 2 semaines de Charles Leclerc. Donc Ferrari qui doit confirmer, Hamilton qui doit s'affirmer aussi. Et on passera toujours un mot au Phoenix comme d'habitude pour finir l'émission. Donc avec Alexandre, bon, on vous dit
à la semaine prochaine.